Le jour où on m'a dit, va falloir faire tout seul. J'ai d'abord fait la gueule, puis j'ai ri de ma gueule. Tous ces mots qui dégueulent, ça fait une drôle de barbare enraser les murs. Au début, pas trop sûr, un moment, faut y aller. Au milieu de la rue, y'a plus à hésiter. Le trottoir est de marbre de l'autre côté. Le jour où j'ai failli retourner dans la tombe, le temps était aux bombes et je les ai bravés. Les gens étaient en ombre à guetter ma rechute. Nous ne mettions que des ombres devant le même but. Dans les ruelles sombres et dans les bars à putes. Au milieu des décombres et des bêtes en rut. Le jour où j'ai failli m'imaginer poète, je n'étais moi aussi après tout qu'une bête. Mais j'ai tenté le jeu et me suis entêté pour en toute fin de compte ne plus rien regretter. Le jour où j'ai failli détourner.
Salut Imaginaire, ça va?
Non, et toi?
Bah moi, ouais, à part le fait que je sois garé en travers devant la radio, ça va. Pierre-Marie et Karine qui nous reviennent des Utopiales.
À pied,
ça fait long.
Ouais, bah justement, ça va, vous aviez une semaine pour
revenir. Heureusement qu'on n'était pas à pied.
Vous avez bien bossé là-bas, vous nous avez ramené plein d'interviews, dont une qu'on écoutera...
Faut pas le dire comme ça, on a l'impression que t'as enjoué, on t'a ramené plein de boulot, parce qu'il va falloir que tu montes et que tu élimines toutes les conneries qu'on a pu dire, et il y en a. Par contre, on revient avec des informations, et puis surtout des livres, parce que oui, un salon littéraire, on revient avec des livres. On savait pas quoi faire de nos week-ends pluvieux ces temps-ci.
Donc on écoutera l'interview de Jean-Laurent Del Socorro en deuxième partie d'émission.
Réalisée par Karine. Vous pourrez retrouver sur YouTube d'ici la fin de la semaine.
Super. Il a pas insisté sur ce
film. Si vous voulez l'image en plus du son. Et puis, Pierre-Marie, tu vas nous faire un petit débrief quand même aussi.
Non,
des
pas envie. Moi, j'ai envie de... Okay. Ce soir, je tacle tout le monde, mais c'est tout.
Ok, super. Sébastien, tu vas nous parler d'une histoire vraie. A true story.
Histoire vraie dont vous êtes le héros, le Tanner.
C'est original, donc, ça, une histoire vraie dont vous êtes le héros.
En fait, c'est tiré à peu près d'un fait divers, donc autour d'un taxidermiste. Donc, c'est de la gamme de True Story. Il y en a eu 6 pour le moment qui sont sortis. Et l'originalité, en fait, de la chose, c'est que Guillaume Natas, qui en est l'auteur, c'est son premier livre dont vous êtes le héros.
Attends, mais Natas, c'est Satan à l'envers, non? C'est un truc horrifique.
Tu viens de tout horrifique. Spoiler. Bravo.
Pas tout.
Le Tanner, ce serait bien une histoire de serial killer quand même. Allez, on commence en musique avec un groupe de pop angevine que je viens de découvrir. C'est Extra, avec ils ont 2 A à la fin. Un extrait de leur deuxième album qui sort en fin de semaine. Ils seront demain soir en concert au Joker's Pub.
Pour la release party, le deuxième album.
Et puis, toi tu les connaissais, mais tu suis peut-être plus l'actu pop angevine que moi. Voilà, ils seront demain soir donc en première partie des Los Angeles, je sais pas comment on dit. De Pearl Earl. On s'écoute le morceau Somewhere tout de suite sur le 101.5.
I'm
mal tout ça.
Bon, ça dépend des points de vue. Hein.
Ok, vous aimez les Beatles. Bon, alors, eh ben tiens, Karine, c'est l'heure.
Tout à fait.
Je te petit jingle.
Donc, je vais vous présenter la trame du Bombix Mori Collectif, publié aux éditions La Volte. Avec cette novella, ce collectif nous entraîne dans le monde de Leria, et notamment au cœur de la trame. Un peuple de nomades qui ne cesse d'avancer, de marcher selon un pas qui leur est propre, contrairement aux sédentaires nommés ici sédentaires. Deux visions des choses sont alors explorées, les trameurs qui vivent en harmonie avec la nature et savent trouver certains trésors qu'elle leur offre, et les sédentaires qui subissent de puissantes marées vertes en étant impuissants face aux conséquences de ces marées, qui entraînent des mutations chez tous les êtres vivants. Donc on suit plusieurs personnages, notamment Lige, un jeune homme qui souhaite être un chasseur de marées végétales, Angénor, un trameur dont la vue disparaît peu à peu.
Un quoi ?
Un trameur.
C'est quoi un trameur ?
C'est un des personnages.
C'est quelqu'un qui est dans la trame.
Ah oui, d'accord.
Exact.
On va parler de trameur et de trappeur. Ah non, de tanneur ce soir. Okay.
Un trameur, en fait, ça va être des personnages qui vont marcher tout au long du récit et dans la nature. Ils sont vraiment en harmonie dans la nature et justement, ils récoltent un petit peu les fruits de ces marées végétales qui, justement, ont... des ressources très importantes.
Ok.
Voilà. Donc j'en étais où du coup ?
À trameur, au mot trameur.
Alors. Donc voilà, les sédentaires qui subissent de puissantes marées en étant impuissants. Tac, 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 tac. Et oui, Angénor, un trameur dont la vue disparaît peu à peu. Ça y est, j'ai retrouvé. Et Chif, une jeune femme qui intègre petit à petit la trame. Ce récit explore un panel de thématiques, puisqu'il soulève de nombreuses questions, tant sur l'environnement que sur la politique. Il interroge notre manière de vivre, d'être dans un certain collectif, puisqu'on fait tous partie d'une société. On vit tous ensemble sur cette terre, mais on ne cesse d'être de plus en plus individualiste. Ça pose tout de même question quand on sait que l'être humain n'est pas fait pour être seul.
Ah bon ?
Eh oui, on a tous besoin de contact humain. C'est pour ça qu'on organise tout un salon et toute une émission. Donc, la trame propose de changer notre perception, d'être ensemble face à des problématiques environnementales, aborde l'entraide, la bienveillance et surtout, appelle à se réconcilier avec cette nature qui peut nous offrir beaucoup. Suffit qu'on s'y intéresse et qu'on l'observe. Le Bombix Mori Collectif explore donc une autre voie, un autre avenir, et on ferait bien d'y réfléchir. Et par ailleurs, on peut y voir de nombreuses références, par exemple la Horde du Contrevent d'Alain Damasio, mais aussi à mon sens les Marées Vertes, un phénomène d'actualité qui est très présent en Bretagne, mais qui s'étend visiblement jusqu'à Angers. Le Bombix Mori Collectif se compose de 4 jeunes auteurs, Jean-Marc, Mathieu, Joachim et Corentin, qui se sont rencontrés lors de leurs études de lettres. Et leur récit est aussi l'histoire d'une amitié, puisqu'ils se sont investis dans ce projet d'écriture pour maintenir leur lien. La trame est donc un petit bijou né d'une envie de partage et d'une volonté de maintenir un collectif. Je vous recommande chaudement cette petite novella. Personnellement, je ne manquerai pas de me tenir au courant de leurs actus. Et je vous laisse avec la chanson.
Vous les avez interviewés aux Utopiales, non ?
C'est ce que j'allais dire.
Tout à fait.
Donc là, on écoutera cette interview et on comprendra comment on écrit une novella à quatre, quand même.
Interview est particulière parce que on l'a fait en plein milieu de la salle de presse, ce qui veut dire que c'est de la captation sur l'instant. On sent que les gens vivent et pas que ceux qui n'ont pas.
Il y avait un karaoké à 2 mètres derrière.
Non, pas à ce moment-là.
Voilà. Oui, donc on lui fait perdre la trame de sa chronique.
Exactement.
J'étais obligée de la faire.
Je vais vous laisser avec la chanson Mara de Teren, un groupe ukrainien de folk metal qui a démarré en juin 2020 avec un premier single, Hanok, et Mara étant leur second single. Voilà.
C'est parti. Найдуть сльози, ведуть спати. Donc avec le morceau Mara dans Imaginaire sur le 101.5, il se passe des choses. Il y a des objets qui volent derrière nous.
Donc je reviens donc pour vous parler de True Story, donc qui est sorti tout récemment, là le titre que j'ai en main. Le Tanner en octobre 2023, donc de Guillaume Natas. Donc là ce soir, je vais vous faire un peu les premiers pas et j'aurai certainement le bonheur d'avoir l'auteur donc au téléphone pour la suite de l'histoire. Donc okay. Je vais vous laisser sur un cliffhanger en fait. Donc moi je trouve que c'est un beau livre, écoute Romain, donc de 176 sections avec une identité couleur aussi bleu blanc. Mmh. Donc, je trouve que c'est un beau livre, souple, donc qui se manipule bien, et qui a aussi la particularité de se jouer sans dés, avec un crayon, ou si vous avez suffisamment de mémoire, donc comme moi à force de m'exercer au livre jeu d'enquête, et je vais vous dire pourquoi, vous pouvez donc vous passer de crayon. Donc je vais en venir au pitch. En fait, on va être réveillé, donc enfin réveillé. On fait une émission, on a vraiment lieu sur YouTube, on est un créateur YouTube, on a envie de pioncer. Sauf que notre meilleur ami va nous appeler au téléphone. Déjà, on est étonné parce que normalement, le téléphone, bon, bah, c'est plus trop à la mode. En fait, elle nous envoie des messages.
Au 21e siècle, tu veux dire, hein?
Par Internet et tout.
Pas chez les YouTubeurs, alors.
Voilà. Et en fait, elle va nous demander de la rejoindre parce qu'elle a cru, enfin, elle est persuadée qu'elle a reconnu son chien qui est mort il y a de ça 2 ans en arrière en vitrine d'une brocante des plus étranges, le bazar des cauchemars.
Ah oui, quand même.
Donc, c'est un chien empaillé. Donc, taxidermie et tout.
C'est une brocante qui s'appelle le bazar des cauchemars.
Le bazar des cauchemars. Donc, l'auteur a pas mal d'humour, déjà rien que dans le nom de la boutique. Et vous le verrez donc avec des personnages aussi très très en couleur. dont le brocanteur qui est des plus joviaux et aussi des plus étourdis.
Ouais.
Donc voilà pour le pitch. Donc c'est très intéressant parce que très vite on rentre dans l'histoire. Mais alors moi ce que j'aime bien c'est que Guillaume Natas, dont pourtant c'est le premier livre dont vous êtes le héros, a l'air de faire quand même référence à d'anciennes publications. Je pense à Meurtre dans l'Orient Express, pour exemple, à des livres des années 80. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Où en fait Romain, au début, donc Sherlock Holmes veut te confier une enquête. Mais tu peux, vraiment, après qu'il t'ait dit l'enquête en question, voilà, je vous demande de m'aider et tout, tu peux refuser l'enquête. Et donc, ton aventure va s'arrêter quelques paragraphes après. Et c'est le cas également du tout début, lorsqu'on commence au 13 septembre la nuit. Tu as quelques fins comme ça, qui sont évitables, parce que on n'a pas envie de refermer l'histoire, mais tu peux arrêter de jouer tout de suite, en fait.
Ok.
Donc, j'aime bien parce que ça aussi, ça fait un peu référence à... au livre-jeu des années 80, 90. Et j'aime bien aussi qu'on ait un peu le choix de dire, j'ai pas envie de... Là, je vais le faire demain, en fait.
Voilà, ok. Je repose mon livre et je recommence l'histoire un peu plus au début, le lendemain.
Voilà. Et et ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a des choix, en fait, qui peuvent sembler secondaires. Et c'est le cas, à un moment donné, où on est dans un taxi, en fait, qui nous ramène. Et, en fait... on apprend à la radio, le taximan, qu'il y a une alerte alimentaire qui touche un restaurant d'une chaîne de fast-food qu'on aime bien, Big Burger, Big Banger Farmer, Big Banger Burger, je vais y arriver. Et en fait, quelques paragraphes plus loin, tu peux avec ton ami déjeuner dans un restaurant de cette chaîne ou dans un restaurant italien. Et je me suis dit, mais si je vais dans le restaurant là douteux,
où il y a eu des alertes quand même.
Enfin, il y en a pas mal. Ouais. En fait, c'est un parmi Je me dis, mais est-ce que je ne risque pas une intoxication alimentaire et donc aussi de connaître une mauvaise faim?
Ah ouais, à ce point-là quand même.
Voilà, mais j'aime bien un peu cette illusion un petit peu que donnent ces choix, qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui permettent d'amplifier un peu le quotidien du personnage qu'on incarne, qui est un héros un peu comme toi tu pourrais aussi l'être. Voilà, un peu un héros de tous les jours, qui va devenir héros en fait, qui va aider sa meilleure amie, donc Noémie. Et on a également des choix, et là l'auteur il est très ingénieux puisqu'il te mélange un peu ces choix qui semblent anecdotiques avec des choix qui paraissent aussi secondaires mais qui ne le sont pas tant que ça en fait. Où il y a quand même des informations à prendre en compte pour pouvoir par exemple relever de bons indices qui vont te permettre de remonter la piste du tanneur.
Donc quand tu disais que tu avais peut-être besoin d'un crayon, tu notes quand même beaucoup d'informations en fait
on
à côté
peut noter
de ton bouquin.
Ou toi dans moi après j'ai l'habitude mais j'ai quand même noté et à un moment donné tu as des post-it de différentes couleurs et c'est à toi de te dire quel post-it de telle couleur je vais prendre en photo pour pouvoir remonter les adresses. D'où en fait le petit chien empaillé. En fait pour nos auditeurs là du 101.5. Le petit chien empaillé, en fait, il provient d'un débarrassage de maison par le brocanteur du bazar des cauchemars, Jean-Michel. Lui, il adore tout ce qui est taxidermie. Donc, il adore ce chien. C'est un chien clown, en plus. Il est dans une posture un peu étrange quand on le voit en vitrine. Et, en fait, il sait plus vraiment à quel moment, en fin de compte, il a été le prendre dans la maison. Il a fait le débarrassage. Et c'est à nous de se dire, il nous donne une information, et c'est à nous de retrouver l'information en fonction des couleurs qu'il utilise. Pour moi, le post-it vert, par exemple, je l'ai utilisé il y a quelques semaines de ça. Et après, il y a les post-it rouges qui remontent un peu plus loin dans le temps. Okay. Donc, il y a quand même des petites informations. Donc, il y a un mélange un peu dans les choix. Donc, c'est à nous de bien savoir, d'être intuitif pour se dire, c'est pas un choix si secondaire que ça. Autrement, donc, on parle de taxidermie et il s'avère que dans un loup solitaire, la pierre de la sagesse, un taxidermiste fou. Donc, c'est le loup solitaire numéro 6, où en fait, notre héros loup solitaire va devoir combattre. Enfin, il peut s'en aller de la boutique, mais autrement, se défaire d'un taxidermiste.
Qui a envie de nous taxidermer.
Voilà. En même temps, on est loup solitaire, entre guillemets. Mais... Donc, je sais pas si Guillaume...
On lui posera la question.
Donc, ça sera l'occasion.
Il y a une autre référence, là, dans ce que tu me dis. C'est Bazar de Stephen King, sorti en France, je crois, sous le titre Le Bazar de l'épouvante.
C'est possible aussi. Il y a pas mal de références. Et c'est un auteur qui a une plume très humoristique. Et ça, j'aime beaucoup. Le personnage de Jean-Michel, le point de départ de notre enquête véritable, c'est au bazar des cauchemars. Mmh. Et le brocanteur, mais c'est un personnage, voilà, il a une gueule, il a une identité, une personnalité. Et on est avec lui pendant plusieurs paragraphes. Mmh. On veut naturellement savoir d'où vient ce chien, empaillé. On veut le récupérer parce que notre amie, elle est très touchée aussi.
C'est vraiment son chien?
C'est vraiment son chien, en fait. On pourrait le veut le récupérer, elle est très touchée par ça. Il y a aussi de l'émotion et ce personnage de brocanteur, vraiment, il m'a stupéfié parce qu'il est, voilà, il est étonnant, il est un peu à ancienne mode avec des bretelles et tout, une chemise à carreaux. Mmh. Et là, l'auteur, vraiment, dès le début, là, j'ai parlé du premier tiers de l'histoire, il arrive à nous capter et à nous entraîner donc à retrouver donc qui a empaillé ce fameux chien et on va apprendre qu'en fait, il y a eu d'autres animaux. Et parce que c'est tiré d'un fait divers, mais l'auteur a eu l'intelligence aussi de pouvoir broder un petit peu autour, d'apporter un petit peu sa pierre, un autre regard aussi à ce fait divers d'actualité.
Ok.
Donc je vous invite donc à le prendre en main. Donc c'est un livre qu'on trouve donc chez 365 éditions au prix de 15,99€. Donc un beau livre, moyen format, souple.
Donc dans la collection True Story, il y en a eu d'autres?
Il y en a eu 6, dont là c'est le 6e ou 5e.
Mais alors qui s'inspire de faits divers en fait?
Qui s'inspire de faits divers ou de la pop culture aussi.
Ah oui, d'accord.
De la télé-réalité ou aussi des influenceurs, voilà.
Ok.
Donc si vous voulez savoir la suite, je vous invite à nous écouter la prochaine fois sur le 101.5 FM avec Guillaume Natas.
Ok. Et on va passer ton choix musical.
Voilà, donc moi je suis pas revenu des Utos à pied, mais en petit tricycle, tricycle jaune de Damien Saez sur le 101.5.
Comme une flamme indestructible. Autour du monde, j'irai avec toi. Si tu veux derrière moi en Amazone, moi j'ai pas besoin de Harley Davidson. Sur mon tricycle jaune, sur mon tricycle jaune, sur mon tricycle jaune. Viens je t'emmène, viens je t'emmène sur mon tricycle jaune. Quand la nuit tombe sur les autoroutes, que tous les gens sans poésie se marrent de me voir pédaler comme un galérien sur mon tricycle jaune. Moi je pense aux gens dans le fond des métros qui s'enterrent dans leur propre tombe. Quand au-dessus des villes nous volons sur les ailes du tricycle jaune, sur mon tricycle jaune, sur mon tricycle jaune. Viens je t'emmène, viens je t'emmène, viens je t'emmène sur mon tricycle jaune. Quand l'apocalypse sonnera la fin, le trafic sera bloqué au péage, il y en aura un que tu verras passer, ce sera le tricycle jaune. Sur mon tricycle jaune, sur mon tricycle jaune. Viens je t'emmène, viens je t'emmène, Viens, je t'emmène sur mon tricycle jaune.
C'est bon, la sieste est terminée.
Ouais, non, on va vous mettre des trucs. Bah, avec le truc de Karine, ça fait
une
moyenne.
Balade douce.
Ouais, mais c'est bien.
Non,
mais
c'est doux.
Ça fait petite pause parce que j'ai pas choisi mon titre. Et je te laissais le choix, Romain, de choisir mon titre et je sens que ça va tabasser.
Mais non, ça va pas tabasser.
mais tu as toujours de très bons goûts. Hein, il faut quand même l'avouer.
C'est un morceau en rapport avec les Utopiales, donc tu as.
Avec les Utopiales ou avec les Beachtopiales?
C'est quoi les Beachtopiales?
Tu n'es pas au courant de tout.
Ah, c'était la soirée aux ateliers de beach pendant les Utopiales.
Exactement.
Non, pas du tout, j'ai choisi une vieillerie à la place. On t'écoute.
Eh ben moi, je suis là pour faire le bilan Utopial. Alors, je vous avoue, mon bilan ressemble de près ou de loin, voire même d'extrêmement près, au bilan officiel des Utopiales, parce que j'ai un affect à donner, mais je vais aussi vous donner le communiqué de presse, si jamais vous ne l'avez pas vu, ne serait-ce que pour donner envie à ceux qui n'y vont pas d'y aller les années prochaines. Le premier point à noter, c'est que cette année, pour la première fois, les Utopiales n'ont pas duré 5 jours, mais bien 5 jours et demi. D'habitude, ils durent 4 jours, plus une journée scolaire, interdite au public. Cette année, ils ont duré 4 jours et demi, plus la journée scolaire, interdite au public. Sur ces 4 jours, se sont pressés quelques 141 538 visiteurs.
Moi, ça me donne pas envie d'y aller.
Et oui, ce chiffre a fait peur à tout le monde. Mais
c'est vrai.
Étalé sur les 5 jours et sur les différents endroits, en fait, par rapport à d'autres années, on a eu l'impression qu'il y avait moins de monde.
Mais ça s'était agrandi aussi. Il y avait plus de lieux qui accueillaient des choses.
Voilà, ils n'ont pas poussé les murs, mais ils ont réquisitionné d'autres salles à l'extérieur. On peut d'ailleurs dire qu'il y a eu 7000 mètres carrés de science-fiction, dédiés à la science-fiction.
C'est cool.
Tout confondu.
Un peu comme
260 intervenants, dont 100 étrangers, pour quelques 120 conférences. Autrement dit, si jamais vous êtes hyper motivé, que vous êtes en pleine forme et intéressé surtout, vous n'avez pas les moyens matériels de tout faire. Heureusement, la plupart des conférences ont été enregistrées, seront rediffusées vidéo auditivement.
Cool.
Oui, c'est un néologisme, mais je l'assume celui-ci.
On est déjà en retard de l'année dernière, moi, donc bon, ça va être chaud.
Non, ce qui est intéressant, c'est de parler des séances de cinéma et des séances de dédicaces. On parle de 314 heures de dédicaces à compter de 1 heure de dédicaces par intervenant.
Ah, c'est tout? Même pour les stars?
Non, mais plusieurs fois par jour, mais une heure maximum par jour.
Oui.
Donc, quand même, 314 heures de dédicaces à compter de 1 heure par jour.
Ouais, mais quand on est fan.
On compte pas? Tout à fait. On peut d'ailleurs citer Robinson, Kim Stanley Robinson, qui devait en faire 2, qui n'a fait qu'une seule heure et qui a eu une queue monstre. Non, ce n'est pas grave. Ce qui est intéressant à dire, c'est que quand même, les Utopiales, c'est une grande fête. L'édition 2023 aura été marquée par le succès du spectacle Science et Humour de Guillaume Meurice, guest star s'il en est, accompagné de Eric Lagadec. Le karaoké, celui-ci à l'espace
Lumière.
On a eu des vidéos qui sont imprésentables, mais on a des scènes d'autrices qui chantent. Je dis ça avec un euphémisme. Et surtout, Morgan of Glencoe qui a rayonné
mais
sur la
piste. C'est presque son métier à Morgan. Hein, donc,
et j'y reviendrai.
Peut-être pas le karaoké même.
D'ailleurs, il n'y a pas eu qu'un seul karaoké, mais il n'y a eu qu'un seul karaoké officiel. Des concerts aux ateliers du beach, et là on y revient. Et encore, les soirées cinéma et jeux. Autant de moments de vie qui resteront gravés dans les mémoires de tout festivalier, festivalière.
Est-ce que vous avez eu le temps de jouer, Karine et Pierre-Marie?
Alors, là, on en vient au bilan imaginaire. On revient avec 20 interviews, sachant qu'il n'y en a que 6 officielles qui sont admis. Je peux te dire que nous, on n'a pas eu le temps de jouer.
14 interviews commando, donc en plus.
Exactement. On s'est un peu marré. Il faut avouer. On a resserré les liens, dit aux gens qu'on les aimait, dit aux gens qu'on les détestait, ignoré certains et adulé d'autres. Bu un nombre incalculable de café et je dois avouer à titre personnel que c'est sans doute l'édition la moins alcoolisée que j'ai vécue. Ce qui n'est pas peu dire. Mais c'était intéressant, c'était drôle et surtout, ma chérie présente dans mon cœur, Audrey Plenet, prix Utopial 2023. C'est officiel depuis au moins une émission, mais là, elle a eu. Et je peux dire un truc, et là, c'est bon pour l'ego, c'est que je lui ai porté son trophée. Bah putain, ça cale une porte.
Ah,
c'est un bloc de verre, ce truc.
Ah oui.
Il est beau. Moi, je l'avais dans le carton. Il est beau. Mais par contre, ça pèse le poids d'un âne mort.
Est-ce qu'on sait où elle l'a posé?
Il faudra lui poser la question. Mm. Moi, je pense qu'à la base, la fonction première de ce prix Utopial, c'est d'être accroché autour du cou de tous les auteurs qu'on a envie de faire disparaître dans la Loire.
Oh.
C'est important à noter. On en vient au palmarès. Mm. Forcément, il y a deux énormes catégories de prix aux Utopiales, à savoir le cinéma, la littérature et d'autres prix derrière, qui ne sont pas de moindre importance. On va commencer par les littératures, puisque nous sommes quand même un festival de littérature. Le prix Utopia, je vous le disais, a été décerné à Rossignol d'Audrey Plenet aux éditions Le Bélial. C'est une Française, pour ceux qui ne le savent pas. Le prix Utopia Jeunesse a été décerné pour Le Clan de la Nation, tome 1, Maria, de Maïwenn Alix aux éditions Nemos. C'est aussi une Française. Le prix Utopia BD a été décerné à Ad Astra Nova de Lisa Blumen aux éditions L'Employé du Mois. C'est une Française. Et le prix extraordinaire a été décerné à Chantal Montelier, scénariste et dessinatrice de BD. C'est une Française. On a donc quatre prix littéraires d'énorme importance, puisque c'est le plus grand salon de SF francophone, qui sont décernés à des femmes françaises.
Et le prix Julia Verlanger, tu l'as pas.
Qui ne fait pas partie des Utopiales, qui est remis au moment des Utopiales, quand même. Claire Garand a reçu le prix Julia Verlanger, Fondation de France, et pas Utopiales. C'est aussi une Française, édition de La Volte. Franchement, jackpot pour les femmes cette année. On passe, on reste quand même dans le côté très littéraire, le scénario du jeu de rôle, meilleur scénario du jeu de rôle pour Héritage, c'est le nom du scénario, de Lali en collaboration avec Vincent, pour un scénario Cthulhu Act.
Ah ouais.
Et les prix du cinéma, alors là par contre ils n'ont pas décidé de faire du cocorico, je pense qu'on peut leur balancer des tomates, mais on les aime bien quand même. Compétition internationale de long métrage, le prix du jury va à Universal Theory de Tim Kroger, Allemagne. Non, il n'a pas été tué dans le Nakatomi Plaza, celui-ci. Mais, c'est important. Die Hard 1, Nakatomi Plaza,
ah ouais,
avec Kroger.
Ah ouais.
Oh, mais la culture cinéma, les gars.
Ouais.
La mention spéciale du jury va à Molly et Marx in the Future, de Michael Luke Litwak, États-Unis. Le prix du public va à Concrete Utopia, oui, je fais des accents sur mon, des fois sur mon accent, de Taewa Hum,
ouais, c'est
Corée du Sud. Là, j'ai laissé tomber. Hein. Compétition internationale de court-métrage va au prix du jury Hito de Stéphane Lopez, philippin. Le prix Canal Plus va à Liguster de Jonas Nemela, Allemagne. Son nom ne l'indiquait absolument pas. Et le prix du public va à The Many World of George Goodman de Greg Bishop, États-Unis.
Smack my Bishop.
Alors non, on dit pas ça, mais je suis d'accord.
C'est un tube de Prodigy.
Il est donc important, à mon sens, de noter que d'année en année, les Utopiales s'agrandissent, mais se dédensifient, je vais y arriver, ça aussi c'est un néologisme, dans le sens où de plus en plus de choses se font à l'extérieur, et c'est intéressant, que le thème de la transmission dans son insertion à la fois scientifique, puisqu'il ne faut pas oublier que les partenaires privilégiés des Utopiales étaient le CNRS, le CEA, l'INRA et l'ESA, que donc la transmission d'un point de vue scientifique et microbiologique était importante, mais son insertion sociologique, telle qu'a pu le présenter Audrey dans ses deux tables rondes, était aussi inestimable. Preuve en est que lorsque, à l'idée de base des Utopiales, qui était la position des sciences dures et de la science molle, littérature, était vraiment l'objectif principal, là on rentre sur les sciences dures et les sciences molles, c'est un mauvais français, mais c'est le terme qu'on utilise, en apport avec la littérature, en opposition avec la littérature, se fait de plus en plus. La question sociologique rentre donc dans qu'est-ce que fait une société et à quel moment est-ce que les recherches scientifiques découlent des ambitions d'une nation. La sociologie étant étroitement liée avec les sciences dures. Mais là, c'est une digression personnelle. À côté de ça,
l'anthologie.
Merci. Et elle est seule et unique. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que les années précédentes, depuis 4-5 ans, les Utopiales avaient décidé que les lecteurs, c'est pas que des adultes, il y a aussi des enfants qui lisent. Et donc, il y avait deux anthologies à l'annuel. L'anthologie adulte, l'anthologie enfant.
Jeunesse.
Ce n'était pas dit comme ça, mais bon. Cette année, depuis 2014, il s'agit des éditions ActuSF qui avaient repris le flambeau des éditions Atalante pour pouvoir faire cette anthologie. Cette année, du fait de la procédure collective et de la liquidation des éditions ActuSF, Jérôme Vincent, en bon éditeur qu'il peut être, a téléphoné à Mireille pas Mathieu.
Dumas.
Non plus. des éditions Atalante pour lui redemander s'il pouvait, si elle pouvait reprendre la gestion de l'anthologie, ce qu'elle a accepté avec plaisir. On ne sait pas ce que va faire la suite, mais en tout cas, cette anthologie-là est sortie. Elle est toute seule parce que les nouvelles enfants, puisqu'il y a un appel à texte jeunesse, merci, pas enfants, mais jeunesse, les trois nouvelles qui ont été sélectionnées sont directement dans l'anthologie. Donc il y a à la fois la partie adulte et la partie jeunesse. Ce qui est aussi à noter là-dedans, c'est qu'il y a des nouvelles inédites et des nouvelles non inédites, parmi lesquelles un hommage à Anne Fakouri, morte en début d'année. Une pensée pour toi, on te kiffait. Il y a d'ailleurs une table ronde mémoire pour elle. Mmh. C'est pas la seule table ronde mémoire, puisqu'il y a eu aussi Philippe Curval. Mmh. On peut aussi noter qu'il y a une nouvelle, encore une fois, de Audrey Plenet dedans, même si elle a l'habitude. Donc, Audrey Plenet est dans l'anthologie. Sa nouvelle n'est pas inédite, mais, cette nouvelle, c'est celle qui a reçu le prix Ronnie Aîné de cette année pour la nouvelle. Parce que, si jamais vous voulez lire cette nouvelle, vous êtes obligé d'acheter l'édition du Bifrost, qui existe en plus petit nombre d'éditions. Alors que le prix Utopiel propose une réédition de cette nouvelle, qui a des qualités suffisantes pour avoir le prix Ronnie-Aîné.
J'espère qu'elle nous écoute ce soir,
elle
Audrey.
Elle nous écoute, je le sais. Et du coup, comme c'est je suis en avion, je ne vois pas sa réaction et c'est ça qui est drôle. Mais
bon, en tout cas, il y a une belle couve qui est l'affiche du festival.
Exactement. L'affiche du festival a été faite par Hélène Usdin, qui a deux mérites. Le premier est d'être une femme. Je ne sais pas si c'est un mérite, mais en tout cas, c'est un fait.
Si.
Le mérite principal dessus, c'est que c'est la première femme à illustrer les Utopiales en 25 ans d'existence. Ce qui vaut quand même le coup d'être noté.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une affiche psyché, moi, je trouve, comme ça et tout. As-tu fini ta chronique, Pierre-Marie? Parce que justement, ça me permet d'enchaîner.
Je suis en train de réfléchir. Et non, parce qu'il faut que je reste sur les Utopiales. Il y avait un dernier point que je voulais aborder, qui est celui de Kim Stanley Robinson, à l'intérieur même de l'anthologie des Utopiales 2023, qui a décidé de ne pas faire de nouvelles, mais pour lequel on a fait un entretien, puisqu'il vient juste de sortir aux éditions Rajlon un nouveau livre qui est celle de Ministère du Futur, qui s'inscrit donc dans la mouvance de la désobéissance civile, qui devient légale, donc qui n'est plus de la désobéissance, et qui est sur l'écologie et qu'est-ce qu'on va faire de notre terre. Cet auteur avait été un des précurseurs de l'anticipation écologique, notamment avec sa trilogie de Mars sortie entre 1993 et 2000, et il nous revient là donc en 2023, ce qui nous fait donc, 30 ans plus tard, toujours pour parler d'écologie et du futur de l'humanité. Et j'ai fini ma chronique.
Et vous l'avez chopé pour une interview, non?
Oui. Alors oui et non, parce que d'abord il parle anglais et que dans l'association, s'il y a bien une compétence que nous n'avons pas, c'est celle de parler anglais. Et donc nous avons eu un interprète.
Mais c'est Natacha,
professeure agrégée d'anglais, qui a fait l'interprétation, enfin la traduction en temps réel, donc l'interprète.
Good.
Ce qui est intéressant, le fait d'avoir donc Natacha, professeure agrégée d'anglais. Il y a un running gag, c'est pour ça que Karine est la mandarine. Donc, Natacha a fait son sujet de mémoire d'agrégation sur Kim Stanley Robinson.
Bah, tiens donc.
Du coup, elle était tout à fait apte à faire l'interprète et surtout, elle a eu de quoi enrichir nos questionnaires, nos questions-réponses. Et effectivement, c'est une interview qui a été enregistrée, donc qui sera diffusée un peu plus tard. Il faut juste qu'on arrive à recontacter Natacha, professeure agrégée d'anglais. Merci Karine. Je vous la présenterai.
Allez, je vous propose qu'on écoute un extrait de la bande originale de La Planète Sauvage, célèbre film d'animation français de René Laloux de 1973, qui avait été remontré donc la semaine dernière aux Utopiales et qui ressort aussi dans un très joli coffret. Et la BO était signée Alain Goraguer. C'est resté assez célèbre. On va dire que les gens qui aiment le rare groove des années 70 sont friands de cette musique. On s'écoute ça tout de suite sur le 101.5. We'll be right back.
s'il te plaît, tu pourrais la chanson.
Le générique donc de La Planète Sauvage par Alain Gauraguerre, qui était voilà, un célèbre arrangeur surtout, notamment Gainsbourg, de chansons françaises, on pourrait dire, fin des années 60, début des années 70, et il a fait peut-être quelques... Oui, pas mal de bandes originales de films, dont celle-là qui est restée assez célèbre, notamment parce qu'elle était assez rare, assez difficile à trouver. Maintenant, il y a eu pas mal d'éditions assez luxueuses, donc on peut retrouver ça facilement, et je vous encourage à l'écouter si vous aimez ce genre de son. On va passer à l'interview de Jean-Laurent Del Socorro.
Tout à fait. Alors, c'est moi qui fais la présentation, je suis désolé.
Ouais, puisque c'est Karim qui va faire l'interview.
Et j'y arrive sur le pourquoi du comment. Mmh. S'il y a un ou une autrice qui est mon chouchou, ça reste Audrey Plenet. Mais s'il y a un auteur ou une autrice que j'adore, que j'adulte pour ses talents, merci Audrey, c'est pas Audrey, c'est Jean-Laurent Del Socorro. C'est un auteur que j'avais découvert à l'époque chez Édition ActuSF pour son Royaume de Vent et de Colère, et c'est un auteur qui s'est spécialisé dans la réinterprétation de l'histoire d'un point de vue fantastique. Il a travaillé sur les guerres de religion, il a travaillé sur la guerre de sécession, il a travaillé sur l'Antiquité. Son dernier roman est d'ailleurs sur une reine antique un peu oubliée de l'histoire. Et là, c'était l'occasion de le retrouver aux Utopiales, sachant qu'il est déjà venu à Imaginaire 3 fois, qu'on l'a interviewé au moins le double, qu'on a des vidéos de lui à ne plus savoir qu'en faire, et que on le kiffe parce qu'il est bon. Mais là, j'ai décidé de laisser un petit peu mon côté groupie de côté, et de laisser une chance à la petite de faire son travail.
C'est qui ?
Qu'elle a fait pas trop mal.
Ah, celle qui te fait des
doigts. Ah, des doigts, oui.
Mais moi, je suis gentille et sage.
Ouais, mais ça n'empêche pas de faire des
doigts. La petite est gentille et sage, oui.
Eh ben, on s'écoute ça tout de suite dans Imaginaire sur le 101.5.
Dans Morgane Pendragon, tu mets en avant un personnage féminin fort qui a existé dans l'histoire. Tu as fait le même choix dans Vainqueuse avec Siniska. Pour quelle raison ?
Là, on est vraiment au cœur de mon projet littéraire. Au début de mon écriture, je travaille sur le matériel historique. Et c'est autour de périodes, essentiellement, d'événements et de thématiques que je vais aborder, dans le Royaume de Vent et de Colère, autour de la question des guerres de religion, des religions, et à travers des personnages de fiction. Et puis va arriver Boudica, en mon deuxième roman, où je prends une figure féminine historique que je mets au centre du récit. Et je n'avais pas eu le temps de le déployer jusque-là. À partir du moment où j'arrive à l'école des loisirs, sur une section jeune adulte, avec une pour toutes, je leur propose tout un cycle de personnalités féminines historiques. Une pour toutes était avec le personnage de Julie Maupin, héroïne française, et on poursuit avec Siniska, le personnage donc, de reine spartiate, qui est connue aujourd'hui pour avoir remporté d'être une première femme à remporter une épreuve aux Jeux Olympiques antiques. Et pour Morgane, on est à peu près dans le même schéma, c'est-à-dire que je me rapproprie cette fois d'une figure mythique que je remets en avant à travers dans le texte arthurien.
Et pourtant, Vainqueuse, c'est un roman jeunesse, donc. Qu'est-ce qui t'attire dans cette littérature jeunesse ?
Alors, c'est presque à l'inverse, en fait. C'est-à-dire, l'école des loisirs vient me chercher pour un partenariat, pour me dire, voilà, est-ce qu'on voudrait travailler avec vous ? Donc, co-construit l'idée ensemble, je leur propose tout de suite des portraits de femmes, et eux, ça les intéresse. Et en fait, je me suis dit, on est sur leur collection médium, qui est leur collection 23e, seconde, donc vraiment sur des gens grands ados, adultes, qu'on appelle young adultes, effectivement, en termes de rayon commercial. Et ce qui est intéressant, c'est le fait de pouvoir se dire, à un moment, je veux parler à un public, moi j'écris pour adultes, j'écris sur un public sur lequel j'ai pas l'habitude. Et je voulais des personnages, voilà, je voulais parler de société, donc la place des personnalités féminines dans l'histoire, et je voulais parler aussi avec des personnages qui gagnent, en fait. Des gens qui l'emportent. Voilà, d'où Vainqueuse, d'où Une pour toutes, des gens entre guillemets inspirants. C'était un peu la problématique avec Boudica. On était sur des effets de ça finit mal. Et je voulais plus ça. Je voulais vraiment, pour ce public-là, plus young adulte, je voulais des gens qui gagnent, ça se passe bien. Voilà, des personnalités féminines, effectivement, qui a un parcours qui réussit.
Est-ce que c'est plus complexe pour toi, à ton avis, d'écrire pour la littérature jeunesse par rapport à celle d'adulte?
Ce serait jeunesse. On serait sur des gens plus jeunes, oui. Parce que ça va être le cas, je vais avoir prochainement un texte beaucoup plus jeune, oui. Là, non, en fait, c'est plus vraiment le positionnement de la caméra, c'est-à-dire où je pose la caméra. J'écris de la même façon, j'ai la même méthode de travail, j'ai la même exigence sur l'historicité. C'est vraiment dans la proche du personnage, c'est avoir une thématique qui est effectivement plus en phase avec les questions qu'on peut se poser effectivement quand on est jeune adulte. Une pour toutes, on est vraiment sur le début de sa vie adulte. Pareil sur Vainqueuse, même si la deuxième partie sur un personnage adulte, sur l'héroïne adulte, le début c'est sur la construction de ce personnage-là dans son adolescence. Donc ouvertement, non. Moi j'écris vraiment de la même façon quasiment de la même façon sur les deux publics.
Est-ce que tu as fait des recherches historiques pour compléter finalement entre romans et l'histoire?
Alors ça s'est fait, c'est un cas un peu particulier, Vainqueuse, c'est le premier roman pour lequel je réfléchis à l'inverse. D'habitude, j'ai une thématique ou un personnage sur lequel je veux écrire. Là, je voulais avoir un roman avec qui je voulais travailler, c'était avec une personne avec qui je voulais travailler, Sophie Larribi-Glaudel, qui est historienne agrégée, spécialiste du monde antique et de la Grèce antique, et je voulais travailler avec elle. Et du coup, elle m'a proposé des personnages sur lesquels ça pouvait correspondre. Elle m'a parlé de Cat Spark, donc c'est sur sa proposition. Et j'ai trouvé cette histoire totalement fascinante. Donc c'est elle qui m'a apporté, avant l'écriture du roman, la biblio, les sources, tous ces éléments-là. Ce qui fait que j'ai, comme je le fais à travers tous mes romans, mais là encore plus rapidement possible, m'imprégner de pas mal de textes, d'articles, pour attaquer l'écriture. Et en plus, celle qui a fait la relecture. Vraiment, ça a été un texte qui a été, en termes de suivi d'intégrité historique et antique, c'était vraiment très dense.
Et on remarque d'ailleurs que tu as inséré des passages de poésie.
Oui.
Donc c'est une référence.
Complètement. De plus en plus dans mes romans, je le fais toujours. Je donne toujours des extraits de textes ou de poésie d'époque. Et là, je voulais de la même façon que ce soit des textes ou des poésies de femmes antiques. Voilà, donc il y a bien des exemples qui sont mis dedans, soit que j'ai traduit, quand ce n'était pas traduit d'origine. Alors voilà, avec toute la maladresse, je suis romancier et pas poète, et ou des textes effectivement qui sont traduits par une poétesse, notamment une poétesse franco-anglaise qui traduit des poétesses grecques d'époque, sur lesquelles j'inscris des extraits, pour entendre aussi. Moi j'aime bien ce mélange où on entend des vrais morceaux, entre guillemets, d'histoire ou de textes historiques au sein du récit romanesque. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui se fait de plus en plus dans mes textes.
Très bien. Et le travail éditorial, tu disais que justement le travail éditorial était complètement différent des autres titres que tu as pu écrire. Donc là, pour Vainqueuse, il a pris du temps, il a pris plus de temps que d'autres, peut-être.
Alors, un peu plus, mais oui et non. Vainqueuse, en termes de temps, laps de temps, c'est écrit en 4 mois, donc ça va très vite. C'est une réalité du métier, parce que je ne fais plus que ça, je suis auteur à temps plein. Donc il y a cette réalité-là, quand même, d'avoir des laps de temps d'écriture assez denses. Assez court pour le déployer. Donc en termes de jours, je crois que j'avais calculé en jour plein, c'est 55 jours d'écriture du moment où j'attaque l'écriture avec les sources. Donc, tout le travail de préparation en amont, de commande des livres, des choses comme ça est fait. J'ai ma pile de livres à lire, j'ai mon écriture et mon plan à mettre en place jusqu'au rendu éditorial et le travail éditorial, je crois que c'est 55 ou 60 jours. D'accord. Donc ça va très vite en fait.
D'accord. Et quels sont tes projets pour 2024 alors ?
Alors, 2024 va être relativement dense. Je devais n'avoir qu'une sortie, qui est en mars prochain aux éditions Argile, Peine de mots perdus, qui est je reviens dans l'univers de Royaume de Vent et de Colère. Et là, donc Royaume de Vent et de Colère, fin des guerres de religion, fin du XVIe. J'avais fait un texte qui se passait avant, qui était l'histoire de Silas, à travers Du roi, je serai l'assassin. Et on va avoir à nouveau un autre one-shot qui se passe une vingtaine d'années après, qui s'appellera Peine de mots perdus. On suivra, c'est l'histoire d'Axel. Voilà, que devient cette chevalière aux ordres du roi, et on va la suivre sur plusieurs années sur des missions à Londres aux ordres de la couronne de France. C'est très KPDP. On revient sur les thématiques, c'est en plein dans l'époque de théâtre shakespearien, Marlowe et autres. Donc on est vraiment dans le décor théâtral, dedans comme dehors, et on sera aussi sur des intrigues à la Dumas, de l'aventure, voilà, avec des personnages qui vieillissent. C'est aussi une thématique que je voulais reprendre de mon premier roman. Et pour la petite histoire, il y aura certains, c'est en cours, une nouvelle édite, une édite à l'écrit de Royaume de Vent et de Colère, qui va apparaître aussi sur le premier semestre et dernier semestre. Et pour l'instant, je n'en dis pas plus. Un court roman jeunesse, enfin un court texte jeunesse à l'école des loisirs, qui lui sera à l'adresse des CE2, CM1.
D'accord. Toujours sur une thématique plutôt féministe
Alors sur le jeunesse, ce sera pas de côté, ce sera sur l'esprit critique. Voilà, on est sur comment aborder l'esprit critique avec les plus jeunes. Voilà, ce sera, j'essaierai d'être bienveillant, de vraies fausses sorcières qui essaient d'expliquer qu'elles ne sont pas des sorcières mais juste des ados. Un groupe de villageois gentils mais pas toujours futés.
D'accord. Et donc pour conclure, je vais te demander de proposer une musique qui accompagnerait notre interview.
Eh bien, ce sera de la K-pop, parce que j'écoute pas mal de K-pop. Voilà. Et enfin, j'en écoute peu, mais là, en ce moment, j'écoute un album. Ce sera du Stray Kids. Et qu'est-ce qu'on va mettre du Stray Kids? On va mettre Top Line, un truc un peu péchu.
Ben, je te remercie pour cette interview. Merci beaucoup.
Ben, merci à vous.
Thank you.
bah si, ça se termine calmement. Ce choix de Jean-Laurent Del Socorro.
C'est vrai que dans cette émission, on n'a pas l'habitude des choses calmes. Entre la berceuse, le hardcore, et puis là, il y a un truc un peu dance, un peu cool.
Bon, il nous reste 20 secondes. Moi, je voulais dire qu'il y avait un fou lancement d'un hors-série de Geek Magazine spécial jeu de rôle avec, il reste 8 jours, et ça propose de jouer dans des univers qui ont été développés dans des romans, des cycles aux éditions Mnemos. Notamment le roman du cycle Chevauche Brume de Thibaut Latine Nicolas que Pierre-Marie avait bien défendu.
Il y a une interview qui est trouvable sur notre page YouTube.
Et ben du coup, on se dit bye bye à dans 2 semaines. Ciao tout le monde.
Salut.
On vous aime.
Having some real, real fuss. Having things on my mind. Love all the time. Feel like it's happening.